Voilà donc, mes amis, ce matin, on commence une nouvelle série. J'ai intitulé mon message « Sept portraits du Fils de Dieu incarné ». Alors, ça fait 34 ans, en fait, que Dieu m'a appelé au ministère pastoral. Et je le remercie presque tous les jours pour ce privilège que j'ai eu et que j'ai encore. Et je pense que le plus grand privilège que j'ai eu dans mon ministère, c'est de pouvoir prêcher la parole de Dieu semaine après semaine après semaine pendant tant d'années. Et mon approche a toujours été la même, c'est une approche qu'on appelle textuelle suivie. D'accord ? Donc on choisit un livre, il y a 66 livres dans la Bible, donc je choisis un livre et je l'entame, chapitre en verset 1, et on continue section par section, semaine après semaine, jusqu'à qu'on termine ce livre et ensuite on passe au prochain livre. Et ainsi, j'ai fait, je crois, une vingtaine de livres de toute la Bible, donc vraiment très très intéressant. Et l'avantage de cette méthode, c'est ce que Paul dit dans Actes 19, 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous en cacher. Ben oui, quand on suit la parole de Dieu méthodiquement ainsi, eh bien, on peut pas sauter des sections qui sont peut-être plus compliquées que d'autres. Donc, c'est vraiment une approche, je pense, qui est très, très bonne. Alors aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, j'ai le privilège d'entamer un tout nouveau livre de la Bible, l'Évangile de Jean. Alors, on a déjà terminé Genèse et ensuite Apocalypse. Et là, Jean, pourquoi Jean? Pourquoi Jean? Eh bien, j'ai choisi l'évangile de Jean avec une réponse assez simple par rapport à ça. C'est afin de mieux connaître Jésus-Christ. Écoutez, 1 Jean 2, 6 qui dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Écoutez, si nous sommes appelés à marcher comme Jésus, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de comprendre et connaître la vie de Jésus afin qu'on puisse marcher comme lui. Et c'est pour ça que j'aime tellement les évangiles et que je suis vraiment content de pouvoir commencer l'évangile de Jean. Il n'y a pas meilleur moyen de connaître le Seigneur qu'un évangile, bien sûr. Alors, peut-être avant d'entamer, quelques mots sur l'arrière-plan de l'évangile de Jean. Alors, l'évangile de Jean, c'est le quatrième évangile dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bien que le nom de l'auteur ne soit pas explicitement mentionné, Irénée, donc c'était un père de l'Église, lui s'est appuyé sur Polycarpe, un autre père de l'Église, qui lui était disciple de Jean pour affirmer que Jean était bien l'auteur. Donc juste 3 générations après Jean, eh bien on a clairement le fait que ce soit Jean qui a écrit cet évangile. Et selon Irénée, Jean écrit son évangile depuis Éphèse à la fin du 1er siècle. Alors qui était Jean? Alors peut-être que vous le savez déjà, Jean et Jacques étaient les deux fils de Zébédée, donc il y avait un frère, selon Matthieu 10. Ils étaient pêcheurs dans les deux sens du terme, d'accord? Ils étaient pêcheurs, ils faisaient la pêche, mais aussi pêcheurs, ils avaient besoin d'être pardonnés de leurs péchés. Et ils vivaient au bord du lac de Galilée. Et Jésus leur a donné le surnom de fils de tonnerre. Donc c'était deux gars qui étaient assez vifs, d'accord? Fils de tonnerre, on peut imaginer. Jean est donc devenu un des 12 apôtres et un des 3 disciples les plus proches de Jésus avec Pierre et Jacques. Et Galates 2, 9 nous dit qu'après l'ascension de Jésus, l'église de Jérusalem a été formée et donc que Jean est devenu une des colonnes de cette église avec Pierre, dans Actes 4, 13, avant de se rendre à Éphèse où là, apparemment, bien que ce n'est pas dit, mais c'est selon la tradition, il aurait aidé avec l'église, les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Mais surtout, et vous vous rappelez peut-être lorsque Jésus était sur la croix, qu'il a confié sa maman, Marie, à Jean. Et donc, c'est à Éphèse qu'il aurait donc pris soin de la maman de Jésus selon ses prescriptions dans Jean 19, 25 à 27. Et c'est de là aussi, donc, à Éphèse qu'il a écrit Jean, mais aussi les 3 épîtres de 1, 2 et 3 Jean qui sont à la fin du Nouveau Testament. Alors, c'est aussi lui qui a rédigé le livre de l'Apocalypse, peut-être vous le saviez. Donc vers les 95 après Jésus-Christ, il a été exilé sur l'île de Patmos en Grèce, persécuté pour sa foi. De là, il a reçu cette vision qui était l'Apocalypse de Jean. Et donc, il a écrit cet Apocalypse. Il aurait été libéré, selon ce que nous dit la tradition. Il serait retourné à Éphèse et là, il serait mort après bien sûr 95. Alors, quel est le but de l'évangile de Jean? Alors, ça, c'est très important. C'est dans le chapitre 20 de Jean, il est dit en verset 30, écoutez, il explique clairement le but de l'évangile de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le but est double. Premièrement, c'est de l'évangélisation. Nous verrons que le verbe « croire » se trouve plus de 100 fois dans l'évangile de Jean. Et donc Jean veut que le lecteur soit convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il croit en lui pour recevoir la vie éternelle. Donc c'est vraiment son premier but, d'accord ? L'évangélisation. C'est intéressant parce que dans ce verset, il utilise, dit bien le verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Donc il veut qu'on comprenne qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, le titre « Fils de Dieu » veut dire que Dieu s'est manifesté en forme humaine et donc que Jésus est son Fils dans le sens qu'il est né ou conçu dans Marie par le Saint-Esprit selon Luc 1, 35. Donc, nous sommes fils d'hommes, d'accord ? Nous avons tous un mère et une père, d'accord ? Physique, si on veut. Mais Jésus, lui, qu'il était fils de Dieu. Donc, Dieu fait homme. Et voilà le but de Jean dans ce verset de Jean 20, 31. Et le deuxième but, selon ces versets, c'est simplement la défense de la foi, d'accord ? Le chapitre 1, qu'on va voir dans quelques instants, une partie du chapitre 1, c'est un excellent exemple où Jean veut tout simplement prouver la divinité de Jésus-Christ, comme quoi Jésus est Dieu. Alors, on peut vraiment résumer le but de l'évangile de Jean avec trois mots, d'accord ? Miracle, croire, vie. On va voir toutes sortes de miracles, afin que nous puissions croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, afin de recevoir en lui la vie éternelle. Donc ça, c'est vraiment le but de ce livre. Alors, on pourrait morceler ou diviser le livre en six sections toutes simples, et ça, on va le voir au fur et à mesure des semaines. L'incarnation du Fils de Dieu, la présentation du Fils de Dieu, l'opposition du Fils de Dieu, la formation du Fils de Dieu, l'exécution du Fils de Dieu et la résurrection du Fils de Dieu. Donc, on va vraiment suivre la vie de Jésus selon Jean. Alors, notre texte d'aujourd'hui, nous allons regarder les premiers 14 versets du chapitre 1. Et c'est ce qu'on appelle le prologue, ou si vous voulez, l'introduction de l'évangile de Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean ne commence pas son évangile de manière biographique comme les autres évangiles ont été commencés. Non, lui plutôt, il commence d'une manière théologique, voire philosophique. D'accord ? Il commence son livre en affirmant haut et fort. Donc il commence très fort du début de son livre. Il veut affirmer haut et fort la divinité de Jésus-Christ, comme quoi Jésus est nul autre que Dieu fait homme. Voilà ce qu'il veut prouver et voilà ce qu'on va regarder maintenant. Alors pour commencer, lisons Jean 1 et les versets 1 à 14, d'accord ? Alors je dis, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été faite par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. On va prier. Seigneur, je te remercie vraiment pour ces versets que nous allons examiner maintenant. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, Seigneur, à la splendeur de Jésus-Christ, Fils de Dieu. au nom de Jésus. Amen. Donc j'ai intitulé mon message, comme j'ai dit tout à l'heure, « Sept portraits du Fils de Dieu incarné ». Sept portraits du Fils de Dieu incarné. Alors, comme j'ai déjà dit, j'ai utilisé le nom « Fils de Dieu » pour décrire Jésus, car c'est le nom que Jean donne dans Jean 20 et le verset 31 pour prouver, il veut prouver que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Alors, premier portrait du Fils du Dieu, de Fils du Dieu incarné, numéro un, le Fils de Dieu est la parole éternelle. La parole éternelle. Regardez les versets 1 et 2. Jean commence comme ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Alors, si vous avez eu des enfants, vous vous rappelez peut-être cette époque lorsque vos enfants étaient jeunes, c'était la période des questions. Et alors, ils vous posaient des questions sur tout. Par exemple, « Papa, pourquoi est-ce que l'herbe est verte et n'est pas rouge ?» Alors moi, je répondais à peu près toujours la même chose. « Ben écoute, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. » « Papa, pourquoi est-ce que les éléphants ont une grosse trompe ?»« Ah oui, écoute, ben c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. » « Papa, pourquoi est-ce que j'ai 5 doigts sur ma main et pas 6 ?»« Ah oui, écoute, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. » Et en fait, ce que je réalisais, c'est que beaucoup de ces questions, je savais tout simplement pas vraiment répondre parce qu'elles étaient au-delà de mes compétences pour répondre. Je ne sais pas exactement toutes ces réponses, sauf que Dieu l'a décidé ainsi. Eh bien, c'est un peu pareil avec les versets qu'on va voir ce matin. Je vais vous expliquer ce texte, mais j'avoue que ces choses sont tellement grandioses que je vais avoir de la peine à vous les expliquer, de vous les expliquer de manière totale, parce que finalement ces choses dépassent ma compréhension. Mais c'est le but, parce qu'on ne peut pas tout comprendre sur Dieu, mais Dieu nous a donné juste assez pour comprendre. Et c'est vraiment fascinant. D'accord? Donc dans ce premier point, nous voyons que le Fils de Dieu est la parole éternelle. Regardez le premier verset. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, quand vous lisez ces deux paroles au commencement, tout de suite, le lecteur devrait, je pense, penser au premier livre de la Bible, n'est-ce pas? Si vous allez à Genèse 1:1, et je pense que tout le monde connaît ces versets, mais je vais les lire de ma Bible, comme ça vous savez qu'ils sont bien dans la Bible. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, on fait le lien directement. Il est évident que lorsque Dieu a créé dans Genèse 1:1 les cieux et la terre, qu'il existait déjà. C'est une logique. Tu ne peux pas créer quelque chose si tu n'existes pas déjà pour pouvoir le créer. Donc, voilà la logique ici aussi de Jean 1:1. « Au commencement » implique d'emblée que la parole, on n'a pas encore défini le mot « parole », mais la parole existait avant la création de toute chose, puisqu'elle a créé toute chose. Hein? Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, ce mot « parole » en grec « logos » n'a jamais eu de commencement, puisque Jean va faire un parallèle direct entre le « logos » et Dieu dans la suite du verset. Il va dire que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Eh bien, puisque Dieu est éternel, il est logique que le logos dont il parle ici est aussi éternel. Donc, tout ce qu'il dit, c'est « au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, donc cette parole existait avant la création. » Donc, il dit « au commencement était la parole », Jean commence son évangile en utilisant ce mot « parole » comme un type christologique. Alors, c'est un mot très commun en grec qui veut dire littéralement « parler » ou « parole » au mot, d'accord? Et c'était un des concepts grecs les plus purs pour décrire l'ultime intelligence ou leur concept de Dieu. C'est comme ça qu'ils parlaient de Dieu, le logos ou la parole. Alors, pourquoi est-ce que Jean a utilisé ce mot pour ici? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le mot « logos » ? C'est bien, car ses lecteurs connaissaient bien ce mot, et Jean utilise ce mot comme un pont. Comme un pont, parce qu'ils étaient familiers avec ce mot. C'était un mot très utilisé par leur public. Et il va leur donner, par contre, une nouvelle définition de ce mot. Il va leur expliquer qui est cette parole. C'est exactement comme dans Actes 17, 23, lorsque Paul voit un idole, il est à Athènes, il voit un idole qui est érigé à un dieu inconnu. Alors, Paul, il dit, écoutez, voici votre idole, un dieu inconnu, je suis ici pour vous dire qui est ce dieu. Et il va mettre le nom de Jésus-Christ sur le nom de cette idole. C'est un peu ce que Jean fait ici. Il est en train de dire, vous, vous utilisez le mot logos. Moi, je vais vous dire qui est ce logos de vrai. Qui est le vrai Dieu derrière ce mot logos. Alors, je vous le dis tout de suite. Qui est? Il dit, regardez, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc là, il fait un lien entre parole et Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair. Ah, c'est clair, dans Jean 1:1, la parole est Dieu, dans Jean 1:14, la parole a été faite chair, Dieu est devenu un homme, le logos, la parole veut clairement dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà la définition que Jean donne au mot logos, Jésus-Christ. Donc, revenons au verset 1, la parole était avec Dieu. Donc maintenant, on sait de qui est la parole, d'accord? Mais il dit que cette phrase montre que la parole est différente que Dieu. Ici, il dit, puisque la parole était avec Dieu, il y avait une entité qui s'appelait parole, ou qui était la parole, une entité qui était Dieu. Ils sont différents, d'accord? Il y avait une différence entre deux. Mais, regardez la suite du verset, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc, d'un côté, la parole et Dieu sont différents. De l'autre côté, ils sont identiques, parce que la parole est Dieu. Alors écoutez, mes amis, ici, nous avons un immense débat théologique. Et vous êtes au courant peut-être sans le savoir, d'accord? Parce qu'il y a un groupe qui se dit être chrétien, mais qui n'est pas chrétien dans le sens biblique du terme du tout. Ils s'appellent les Témoins de Jéhovah, et eux, ils ont une Bible qui s'appelle la traduction du Nouveau Monde, the New World Translation. Et voici comment eux traduisent le verset 1. Au commencement, la parole est, excuse-moi, au commencement était la, non, je recommence. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Voilà ce qu'ils disent. La parole était un Dieu. Nos Bibles disent, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est très, très différent. Très, très différent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils traduisent ce verset différent que nous? Eh bien, parce que les Témoins de Jéhovah justifient leur traduction en expliquant. Alors, écoutez, c'est un peu technique, mais écoutez, d'accord? Ils expliquent que le premier mot pour Dieu dans le verset 1 contient l'article, donc en grec, ce serait le Dieu, tandis que le deuxième mot pour Dieu omet l'article, il n'y a pas de le avant, et devrait donc être traduit un Dieu. Donc, il conclut que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est une qualité divine. Il est un Dieu. Petit dé. Jésus est donc une création de Dieu, la plus haute de ses créations selon eux, mais pas Dieu créateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que seule la Bible des Témoins de Jéhovah traduit cette phrase « La parole était un Dieu ». Toutes les autres Bibles que nous avons traduit la phrase par « La parole est Dieu, ou était Dieu. » Alors, il y a deux problèmes majeurs avec les Témoins de Jéhovah qui disent, numéro un, le polythéisme. L'interprétation des Témoins de Jéhovah suggère que le polythéisme existe. Ben oui, comment, écoutez, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Un Dieu, quoi, parmi d'autres dieux, mais c'est même pas logique. Or, la Bible, dans Deutéronome 6:4, dit clairement, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu, le seul et unique vrai Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Donc ça, déjà ça marche. Mais le deuxième argument, et je trouve très intéressant, c'est un argument de grammaire. Écoutez, si les Témoins de Jéhovah suivaient leur logique jusqu'au bout, d'accord, eh bien alors le verset 6, regardez le verset 6 où il dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Selon leurs règles grammaticales, parce que ce qu'il utilise dans le verset 1, il devrait lire le verset 6 comme ceci, il y eut un homme envoyé d'un Dieu. Son nom était Jean. C'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? Le verset 12 aussi, même logique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant d'un Dieu. Mais c'est ridicule. On ne devient pas enfant d'un Dieu, on devient enfant de Dieu. Encore, le verset 18 dit « Personne n'a jamais vu un Dieu ». Mais non, cette personne n'a jamais vu Dieu. Il y a beaucoup d'exemples encore dans Matthieu 5, 9, dans le sermon sur la montagne. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils d'un Dieu ». Non, le fils de Dieu. Donc, grammaticalement, ça ne marche tout simplement pas. C'est ridicule, le mot « Dieu » sans article dans ces versets décrit clairement le seul et unique vrai Dieu et non pas un Dieu avec un petit « d ». Donc, notre traduction est juste. Alors, c'est très important de vous rappeler de ça parce que lorsque les témoins de Jéhovah frappent à votre porte, c'est très compliqué de savoir comment y faire. Et là, nous avons une règle grammaticale où on peut se répercuter sur les versets 6 et 12 pour leur montrer leur erreur. Regardez maintenant le verset 2. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc le verset 2 ne fait que de répéter le verset 1. La parole d'un côté était Dieu, la parole était avec Dieu et au verset 14 on a vu que la parole est devenue chair. Donc la seule conclusion possible est le fait que la parole présentée comme étant à la fois Dieu mais aussi différent que Dieu ne peut s'agir que d'une personne dans l'histoire du monde, pas 36, une. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dieu fait chair. Et voilà pourquoi les théologiens ont réfléchi à ça et ont dû, ils ont quelque part inventé, ils ont créé un terme, un mot pour décrire cette chose. Et le mot, c'est le mot Trinité. Trinité. Alors notez, le mot Trinité en lui-même n'existe pas dans la Bible, mais la réalité de la Trinité existe bel et bien dans la Bible. Alors certains diront, ouais, mais alors, puisque le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, ben ça veut dire que la Trinité n'existe pas. Non, ça n'a rien à voir. Ce serait exactement pareil de dire, John, le mot athée, et c'est vrai, le mot athée n'existe pas dans la Bible. On le trouve nulle part. Pourtant, la Bible affirme que les athées existent bel et bien. Dans le psaume 14, il est dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Donc, l'athéisme est bien décrit dans la Bible, mais le mot « athée » a été inventé, si vous voulez, pour décrire ce genre de personne. Mais le mot « trinité », c'est pareil, il a été inventé, quelque part, pour décrire le fait que Dieu est un, mais que Dieu est devenu un homme. Il y a une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont un, mais ils ont des rôles différents. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Donc, voici le premier portrait de Jésus qu'on vient de voir dans Jean 1, que le Fils de Dieu est la parole éternelle. La parole éternelle. Alors, voyons le deuxième portrait. Le deuxième portrait du Fils de Dieu, il est le Créateur de l'univers. Le Créateur de l'univers. Verset 3. Écoutez, là, c'est tellement incroyable. Regardez. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, toutes choses ont été faites par elle. Alors, par elle, c'est quoi? Ben, c'est la parole qui était Dieu, verset 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, sans rien n'a été créé sans avoir été faite par elle. Cette parole qui est, verset 14, Jésus-Christ. Donc, deux vérités ressortent dans ce verset 3, absolument incroyable. Premièrement, écoutez bien, que Jésus-Christ n'a pas été créé. Puisque c'est lui qui a créé toute chose. Répété par un négatif ici, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, pour bien qu'on comprenne. Donc, écoutez bien, rien qui n'a été créé, tout ce qu'on voit, toute la création qu'on voit, rien de cela n'a été créé sans elle, sans la parole, sans Jésus-Christ. Donc, et c'est ce qu'il dit, toutes choses ont été faites par elle, donc toute la création a été faite par lui. Vous dites, waouh, ben, regardez verset 10, il le répète. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Oui, le monde a été fait par elle. Donc la Bible nous dit que le monde a été fait par elle, la parole incarnée Jésus-Christ. Écoutez encore Colossiens 1, 15 et 16, dit ceci, le Fils, parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Écoutez, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ce verset nous dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Vous dites, ouais, mais John, quoi exactement? Alors, c'est très simple. Hébreux 1, 2, d'accord, c'est vraiment la totale ici, dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Écoutez maintenant. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est incroyable. Attendez, voilà. Par lui, il a créé l'univers. C'est incroyable. Et c'est intéressant. Le mot toute chose, panta en grec, parle de choses individuellement et séparément. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étoile qui s'appelle l'étoile Antares. Écoutez, cette étoile, elle est tellement immense qu'elle pourrait contenir, tenez-vous bien, 64 millions de soleils. Une étoile qui contient 64 millions de soleils. Or, Antares n'est qu'une étoile dans notre galaxie de la Voie lactée qui s'étend. Pour aller d'un côté à l'autre de la Voie lactée, il faut 100 000 années-lumière. Donc, à la vitesse de la lumière, vous allumez votre lumière, ping, ça va vite. Hein. À cette vitesse-là, il faut 100 000 années juste pour traverser la Voie lactée. Et la Voie lactée, c'est une galaxie parmi des milliards de galaxies. Et dans cette galaxie qui est la nôtre, il y a une étoile, Antares, qui peut contenir 64 millions de soleils. Qui a créé Antares? La Bible nous le dit, Jésus-Christ. Qui a créé cet univers énorme? Jésus-Christ. Est-ce que vous saviez que dans une goutte d'eau, il y a tellement de millions de molécules que si chaque molécule était un grain de sable, on pourrait construire une route depuis Paris jusqu'au Congo de 30 cm d'épaisseur et 1 mètre de large. Des fois, nous, on mange sur notre terrasse et à une période de l'année, on voit des tout petits points rouges, des bestiaux, mais qui sont plus petits qu'une tête d'aiguille, qui marchent. Et combien de fois est-ce que j'ai regardé ce petit point rouge qui bougeait pour me dire, mais attends, c'est dingue. C'est un animal complet. Il y a des yeux, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a des pattes, il y a des muscles. Non, mais c'est la totale dans ce petit point. Qui aurait pu créer une chose comme ça? La Bible nous le dit ici, Jean 1, 3, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Selon Genèse 1, Jean 1, Colossiens 1 et Hébreux 1, c'est marrant, hein? Genèse 1, Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1, Jésus est l'agent créatif de la Trinité, c'est lui qui a tout créé. Vous savez, j'y pense souvent à ça, parce que quand je commence à me soucier des problèmes de ma vie, je me dis, ah, tu sais, j'ai ce problème, fou, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment ça se passe? Oh là là, je m'inquiète, je me dis, tant, John, stop! Qui a créé Antares? Qui a créé la planète Terre? Qui a créé la petite bestiole rouge sur ma terrasse? Dieu, est-ce qu'il connaît mes problèmes? Qui m'a créé? John, relax. Dieu contrôle sa création. Inclus ma petite vie, qui est importante parce que Christ est mort pour moi, mais il la contrôle. Il sait ce qu'il fait. Donc, premier portrait du Fils de Dieu, il est incarné la parole éternelle. Numéro 2, il est le créateur de l'univers. Numéro 3, il est la lumière des hommes. La lumière des hommes, verset 4. Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Intéressant, donc en elle, donc de nouveau cette parole, on parle toujours de la parole qui est clairement Jésus-Christ, verset 14, était la vie, et la vie. Alors que veut dire le mot vie dans ce contexte? Et bien sûr, alors ça on a vu, on vient de voir dans la création, Dieu a créé la vie, nous a donné la vie physique. Ok. Mais le contexte de l'évangile de Jean semble utiliser le mot pour désigner plus la vie spirituelle, parce qu'il parle à des gens vivants déjà, d'accord? Et donc il parle de la vie spirituelle, la vie éternelle. Dans Jean 14, 6, hein, vous connaissez certainement ce verset, si vous êtes un peu familier avec la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il prétend pouvoir donner la vie. Il est la vie. Il est la vie. Dans Jean 17, 3, on nous avons une description de cette vie éternelle et comment elle se passe vis-à-vis du croyant. Il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître son Fils, Jésus-Christ. Dans Jean 5, 21, Jésus dit qu'il donne la vie à qui il veut. Dans Jean 5, 26, qu'il a la vie en lui. Il peut la donner parce qu'il l'a en lui. Dans Jean 6, 48, il dit qu'il est le pain de vie. Et Jean 10, 28, j'aime beaucoup ce verset. Jean 10, 28, où il dit « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Voyez-vous, la Bible dit que nous sommes vivants physiquement, mais Éphésiens 2 dit qu'on est mort à notre péché, c'est-à-dire que nous sommes dans le péché. Et nous devons être, nous sommes un peu comme des cadavres, des morts vivants. On est vivant physiquement, mais mort spirituellement. Et à un moment donné, lorsque Jésus-Christ se dévoile à nous, lorsque Jésus-Christ rentre en nous, eh bien c'est comme paf, on est ressuscité à une nouvelle vie, et il y a un nouveau moi qui naît, c'est un nouveau John Glass. C'est ce que la Bible appelle aussi la nouvelle naissance dans Jean 3, on le verra quand on arrive dans Jean 3, d'accord? On a une nouvelle naissance, on renaît spirituellement. En fait, on le voit très bien dans Jean 3, je voulais quand même vous montrer ce verset-là qui est tout à fait intéressant. Il dit, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est l'esprit. » Donc, nous naissons une fois physiquement et une deuxième fois spirituellement. Donc, voilà ce que Jésus est et ce qu'il nous offre. Verset 3 de nouveau, verset 4, « Il était la vie était la lumière des hommes. » Dans Jean 8, 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 1, 5, « Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. » Donc, il nous donne la vie, cette vie. Une fois qu'on l'a, c'est comme une sorte de lampe de poche qui éclaircit ma voix. Vous savez, il y a des années en arrière, en famille, on était quelque part en France, et on est rentré dans une caverne, mais c'était un tour organisé. On est allé, il y avait des lampes de poche et des lampes, des lumières un peu partout. On est descendu très profond quelque part, je ne me rappelle plus du tout où c'était. Et à un moment donné, le guide, il a dit, écoutez, non, tenez-vous, je vais éteindre les lumières pour que vous voyez ce qu'est l'obscurité totale. Et là, il a coupé les lumières, et c'était, mais opprimant, c'est-à-dire tout d'un coup, on ne voyait mais absolument rien. Je pouvais avoir ma main ici, je ne voyais rien. Même en touchant mon nez, je ne voyais rien. Et je me rappelle, on se tenait, on se dit « Waouh !» Et après quelques instants, eh bien, je crois qu'il a allumé une allumette. Kang ! Et on a vu un petit brin de lumière, et là, tout le monde « Ah !» Lumière. Voilà ce que Jésus est. Dans un monde ténébreux, il est la vie et il est la lumière des hommes. 4. Il est la parole éternelle, le créateur de l'univers, la lumière des hommes, et quatrièmement, le sauveur prophétisé. On en parlera plus dimanche prochain, mais je vais juste lire ces versets. Regardez, là, il introduit un nouveau personnage, c'est Jean-Baptiste. Et il dit au verset 6, « Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Donc ici, le Jean n'est pas de Jean, donc qui est l'apôtre Jean qui écrit l'évangile de Jean, parce que lui, chaque fois, on verra plus tard aussi, chaque fois qu'il se présente, il s'appelle il se présente comme étant le disciple que Jésus aimait. Ici, il parle clairement de Jean-Baptiste, et on va le voir parce que, on va voir la semaine prochaine, à partir du verset 15 et la fin du chapitre, toute la section est sur Jean-Baptiste, d'accord? Alors, nous apprenons quatre choses sur Jean-Baptiste dans les versets 6 à 8. Premièrement, qu'il est envoyé de Dieu, que son nom est Jean, qu'il avait un but, c'est d'être témoin. D'accord, témoin, c'était celui qui parlait de ce qu'il avait vu. Le mot martyros en grec veut dire qu'il était martyr, parce que souvent, quand les gens parlaient de Jésus-Christ, eh bien, ils étaient martyrisés. Donc, il était témoin. Et regardez surtout au verset 7, il vint pour servir de témoin, pour en témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui. Donc, c'était un évangéliste, si on veut, et il voulait pointer à Jésus les gens pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et c'est lui qui va inaugurer le ministère de Jésus-Christ, de Jésus, et ça, on le verra la semaine prochaine, d'accord? Ce qu'on veut simplement souligner, c'est que Jean-Baptiste est un témoin et il est celui qui est en train de dire, un petit peu, c'est vraiment le dernier prophète de l'Ancien Testament, si on veut. Et en tant que prophète, il est en train de pointer à Jésus-Christ. Et c'est par exemple comme Ésaïe, il est exactement comme Ésaïe. Ésaïe, lui, a écrit sa prophétie. Il a dit, par exemple, ceci au verset 3, ça c'est Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, il dit, Ésaïe 53, « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habité de souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, etc. » Et donc, on voit très bien que Ésaïe pointe à Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste va pointer aussi à Jésus-Christ. Et donc, le Fils de Dieu, ici le quatrième point, c'est que c'est un sauveur prophétisé par tous ces prophètes, dont Jean-Baptiste, mais comme je dis, on verra ça plus la semaine prochaine. Ceci mène au cinquième point. Donc, il est la parole éternelle, le créateur de l'univers, la lumière des hommes, le sauveur prophétisé. Cinq, il est le Messie rejeté. Le Messie rejeté. Alors là, on a les versets, je pense, les plus tristes de ce chapitre. D'accord? On est dans Jean 1, 9 à 11. Regardez encore. Cette lumière était la véritable lumière. Voici la véritable lumière, il dit. Jean-Baptiste, voici la véritable lumière. Qui, en venant... Non, excusez-moi, il parle de Jésus-Christ, pas de Jean-Baptiste, mais je vois que c'est Jean, je crois que c'est l'apôtre Jean qui écrit le verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière, parlant de Jésus-Christ, la lumière qui a été mentionnée juste avant, qui est venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Tragique. Tragique. Vous savez, je crois que c'est une grande frustration des chrétiens. Nous avons découvert, c'est comme si on avait découvert le remède pour le Covid-19, et on le proclamait dans le monde entier. Nous avons découvert le remède du péché. Et le remède, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous pardonner nos péchés. Et donc, nous nous proclamons, c'est la lumière du monde, c'est la vie du monde. Nous voulons proclamer cette vérité, mais le problème, c'est que le monde rejette souvent ce message. Il le rejette. Dans 2 Corinthiens 4, pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais il dit ici, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Nous, on proclame Christ, qui est l'image du Dieu, la parole faite chair. On dit, écoutez, Jésus-Christ est Dieu, il veut vous pardonner vos péchés. Mais ces gens, nous dit ce texte, sont voilés, leur compréhension est voilée par celui qui s'appelle Satan, le Dieu de ce monde. Mais, ne soyons pas découragés, parce qu'il dit au verset 2, n'altérons point la parole de Dieu, mais nous publions la vérité, et au verset 5 de 2 Corinthiens 4, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de eux. Et ce Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, nous annonçons l'évangile et c'est Dieu qui ouvre les cœurs pour que les gens puissent voir cette lumière briller. Oh. Mais la tristesse, c'est que beaucoup, beaucoup et beaucoup de gens rejettent cela. C'est ce que j'en dis ici. Non, là, c'est terrible. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Donc, elle est disponible à tous les hommes. C'est ce qu'il dit ici. Elle était dans le monde. Oui, Christ est venu dans le monde. Il était là. Et le monde a été fait par elle. Très bien. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui ont vu Jésus voyaient le Créateur du monde? C'est ce qu'il dit ici. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Mais t'allez voir, quand ils ont crucifié Jésus-Christ, ils étaient en train de crucifier leur Créateur. Ils étaient quelque part en train de crucifier Dieu, oui, Dieu incarné. Mais c'est terrible! Dieu devient un homme, il se prouve par tous ces miracles que Jean va discuter dans son livre, et les gens disent, mais non, clac, 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 on te cloue, on ne te veut pas. C'est tragique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens rejettent Jésus-Christ? Très simple. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18 nous donne la réponse. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi? Et ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Les gens rejettent Jésus-Christ, rejettent la lumière parce que la lumière révèle leurs péchés et les hommes aiment leurs péchés. Ils aiment pécher. Et c'est là où Dieu doit briser et briser et briser les hommes jusqu'au jour où ils n'aiment plus leurs péchés. Et ils veulent s'en repentir et dire, oui, j'en ai marre de l'obscurité, mais je veux la lumière, Jésus-Christ, viens. Viens et brille en moi, donne-moi là, j'ai des frissons là, donne-moi la vie. Et ces gens-là, ce sont les gens qui, eux, reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Mais la tristesse de ces versets 9 à 11, c'est que la plupart des gens rejettent cette chose. Ne soyons pas découragés. Tu aimes annoncer l'évangile, mais des fois t'en as marre, tu dis, personne ne va entendre. Écoute, nous sommes des témoins. Nous faisons du mieux qu'on peut. On témoigne. Lorsqu'on a une occasion d'articuler l'évangile, on le fait. Mais c'est pas nous qui allons ouvrir le cœur de ces gens. On ne peut que prier pour eux et demander que le Seigneur fasse son œuvre. Et rappelons-nous que le monde, c'est un monde de ténèbres et qu'il rejette Christ. Très rapidement, les deux derniers points. D'accord, le Fils de Dieu est sixièmement. Alors, on a vu qu'il est la parole éternelle, le créateur de l'univers, la lumière des hommes, le sauveur prophétisé, le Messie rejeté. Six, il est le rédempteur des sauvés. Écoutez, ces versets sont tellement importants. Regardez Jean 1, 12. Voici la bonne nouvelle, mes amis. Tous n'auront peut-être pas recevoir Christ, mais certains oui. Et regardez verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Waouh! Absolument fantastique. Alors voici la question. Écoutez bien. Comment devient-on chrétien? Comment devient-on chrétien? Non, je formule la question autrement. Comment ne devenons-nous pas chrétiens? Comment ne devient-on pas chrétien? Eh bien, le verset 13 nous répond. Premièrement, il dit « nom de sang ». En autre terme, nous ne devenons pas des chrétiens juste parce qu'on est humain, parce qu'on est dans une famille chrétienne. Non, nous ne sommes pas automatiquement sauvés selon le verset 13. Ce n'est pas un automatisme humain. L'universalisme qui dit que tout le monde un jour sera sauvé est déprouvé dans ce verset. Non, c'est pas à cause du sang. Deux, ce n'est ni de la volonté de la chair. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons beaucoup de bonnes choses, de bonnes œuvres avec notre chair. Non, Non, on peut donner de l'argent, on peut aider une grand-mère à traverser la rue, on peut donner à manger pendant le confinement du Covid-19, c'est très bien, on peut fréquenter une église, c'est très bien, mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Comme j'ai souvent dit, je peux passer toute ma journée chez McDo, mais ça ne fait pas de moi un Big Mac. Je peux passer toute ma vie dans une église, mais ça ne fait pas de moi un chrétien. Ni, le verset 13 nous dit, de la volonté de l'homme. C'est pas parce que tu as décidé que tu seras chrétien ou que tu penses que tu le mérites. Imaginez, d'accord, que je frappe à votre porte au jour de la maison, vous m'ouvrez la porte et je vous dis, écoutez, j'aimerais s'il vous plaît devenir membre de votre famille. En fait, j'ai déjà changé mon nom de famille, je suis déjà allé à la préfecture, j'ai fait changer tous mes papiers, mon passeport, mon permis de conduire. J'aimerais, pour refléter votre nom, donc j'aimerais maintenant simplement que vous m'acceptiez comme le membre de votre famille. Qu'est-ce que vous répondriez? Je sais ce que vous répondriez. Il est complètement malade. Il est complètement malade. On ne devient pas membre d'une famille simplement parce qu'on veut le devenir. Non, il y a deux manières de devenir membre d'une famille. Ou bien on est né dans la famille, ou bien on est adopté dans cette famille. Eh bien, le verset 12 nous explique comment faire pour être né dans la famille de Dieu. Regardez le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlons de la parole, à ceux qui croient en son nom, donc le nom de Jésus-Christ, on l'a vu verset 14, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez, pour entrer dans la famille de Dieu, il faut, écoutez bien, être né dans la famille de Dieu. Il faut être quelque part adopté aussi, ça on le verra plus tard, d'accord? Mais ici, il dit qu'il faut être né dans la famille de Dieu. Comment? À quel moment? Et il le dit. À l'instant où on croit en son nom, à l'instant où on reçoit, c'est les deux verbes dits ici. Et regardez, c'est intéressant le verset 12. Il y a deux verbes qui sont mis en juxtaposition qui en fait donnent le fait qu'ils soient identiques dans ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, là, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, virgule, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, croire, beaucoup de gens se disent, mais ça veut dire quoi croire? Croire, est-ce que je crois? Non, croire, c'est recevoir. Ah, c'est beaucoup plus clair maintenant. C'est de recevoir. Donc, comment est-ce que je crois? J'accepte le fait que Jésus est Dieu fait homme. Verset 1, verset 4, 14, que Jésus est le créateur du monde, que Jésus est mort et ressuscité pour moi, c'est le but de l'évangile de Jean, qu'il est la vie et la lumière qu'il me donne, qu'il est le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'il est le Sauveur prophétisé, et je le reçois. Je lui dis, Jésus, je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, tu es vivant puisque tu as créé tout ça, c'est-à-dire que tu es vivant. Et donc, ici, j'apprends que je dois te recevoir. Donc, je te demande pardon pour mon péché, l'obscurité dans laquelle je vis, et je te demande de devenir mon Sauveur et mon Seigneur. C'est tellement clair. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il dit? Et il le dit au verset 13, je serai né de Dieu. Je serai né de Dieu. Jean 3 nous dit que je serai né de nouveau. Verset 12 dit que je deviendrai enfant de Dieu. Avant, je ne l'étais pas. Jean 8, 44 nous dit que avant on était en fait fils du diable. Mais là, on devient fils de Dieu. Donc, à l'instant où tu places ta foi en Jésus-Christ, où tu dis, tu crois et tu dis, Jésus, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur, paf, à cet instant, tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau, exactement comme le dit le verset 12 et 13. Et ça mène au dernier point, le Fils de Dieu et la parole faite chair. On l'a déjà dit, mais on le revoit au verset 14. Et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! Dieu devient un homme. Écoutez, il y avait un paysan qui était dans un jour d'hiver confiné chez lui, puis il regardait à l'extérieur, il a vu un oiseau faire un truc vraiment bizarre. Il y avait beaucoup de neige, du vent et tout ça, et l'oiseau venait, se cognait contre la vitre, et il repartait, se cognait. Donc, on avait l'impression que l'oiseau voulait rentrer parce qu'il voyait la lumière. Alors, Et il était touché, ce paysan, il ne savait pas trop quoi faire. Il s'est dit, tiens, j'ai une idée. Donc, il a mis son manteau, il a mis ses bottes. Il avait une grange qui était juste à côté de sa maison. Il est sorti de chez lui, parce qu'il ne voulait pas que l'oiseau rentre chez lui. Il va à la grange, il ouvre la porte grande, il allume les lumières, il arrange la paille pour le nid, il met de la nourriture. Et il dit, super, l'oiseau va pouvoir venir, il va pouvoir sortir du froid, et il va rentrer dans la grange tout bien. Alors, une fois qu'il a tout préparé ça, il est rentré chez lui. Il a regardé par la fenêtre pour voir si l'oiseau allait rentrer dans la grange. Eh bien, non. L'oiseau n'y allait pas. Alors, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est réalisé, mince, je suis une personne grande, je suis un homme, et donc j'ai dû faire peur à l'oiseau. Et ensuite, il était là, il s'est dit, ah là 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 là, si seulement je pouvais pendant un instant devenir un oiseau. Je pourrais vite aller lui dire, écoute mon ami l'oiseau, viens dans la grange parce que là c'est vraiment le top, c'est chaud, c'est sympa. Et en réfléchissant à ça, ce paysan s'est dit, ah, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Dieu était là-haut et il s'est dit, tant, si je deviens un homme, ils vont comprendre que je suis là, que je les aime et que j'ai un endroit de sécurité pour eux. Alors moi, et le paysan ne pouvait pas devenir des oiseaux, mais Dieu est devenu un homme. C'est ce que nous dit le verset 14. La parole qui était Dieu, verset 1, a été faite chair. Elle est venue parmi nous et nous l'avons vue. C'est ce qu'il dit, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà mes amis, voilà la chose extraordinaire de ce chapitre 1 de Jean. C'est la réalité que Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ, et qu'il veut nous sauver afin que nous devenions enfants de Dieu. Donc je te pose la question. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Sinon, je t'invite aujourd'hui, à croire en lui, en le recevant. Demande-lui de devenir ton sauveur et ton Seigneur. On va prier. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute là, qui n'est pas certain, n'est pas sûr qu'il est enfant de Dieu. Oh, qu'il puisse relire ces versets, être convaincu que toi, ô Dieu, Jésus-Christ, toi qui as créé ces personnes, chacun de nous, tu es devenu un homme pour offrir ta vie en tant que sacrifice, prophétisé dans l'Ancien Testament, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Seigneur, fais ton œuvre dans chacune de nos vies. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, que nous puissions simplement éclater de joie et de reconnaissance parce que nous sommes enfants de Dieu en vertu de celui qui est devenu un homme, Dieu qui est devenu un homme, Jésus-Christ incarné. À toi toute la gloire. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Écoutez, voilà les amis, Jean chapitre 1, les premiers 14 versets, très fort, tout de suite, vraiment de la théologie intense, mais je m'en réjouis. Alors la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus biographique. On va regarder la suite, la vie de Jean-Baptiste. Qui était ce personnage, d'accord? On sait très bien que ce personnage, il mangeait des sauterelles déjà, donc ça c'est un peu particulier. Il se vêtait d'un vêtement fait en peau de chameau. Il vivait dans les airs. Qui est cet homme et pourquoi est-ce que Jean lui donne un demi-chapitre ici de biographie, donc ce sera ce qu'on verra la semaine prochaine, vraiment un des personnages préférés dans toute la Bible. Donc voilà, avec cela, je vous dis bon dimanche, vendredi prochain, juste notez-le, nous allons réorganiser, en fait pendant le confinement, on va organiser tous les vendredis pour ceux qui aimeraient se connecter, une étude biblique ou un groupe de maison de 19h à 20h30, d'accord? Donc allez sur le site de l'église, à 19h, cliquez sur les liens, vous devez recevoir un pass Zoom et on sera vraiment ravis de vous avoir à participer avec ça. Donc dites-nous que vous aimeriez le lien et on vous inclura. Donc voilà, merci, que Dieu vous bénisse richement, profitez de cette belle journée et à dimanche prochain. Au revoir.